Mangez Vrai, première radio 100% dédiée à l'alimentation.
Si le 24 juin dernier, les députés ont adopté en première lecture à l'Assemblée nationale la proposition de loi déposée par le député Grégory Besson-Moreau, la fameuse PPL, dite Egalim 2, visant à protéger la rémunération des agriculteurs, elle concernera aussi les étiquettes des produits alimentaires. Et si pour la majorité présidentielle, il s'agit d'un pas en avant, les associations de consommateurs, quant à elles, évoquent l'inverse avec une mesure dans le texte qui affaiblirait la traçabilité des produits. Critiquée tant par la grande distribution que par les PME agroalimentaires, la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, de son côté, a annoncé récemment que les PME agroalimentaires françaises étaient très inquiètes de ne pas avoir été entendues et craignaient pour la pérennité de leur activité et des emplois de leur entreprise ancrée dans leur territoire. Pour nous en parler ce matin, nous avons en ligne Dominique Amiro, le président de la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. Bonjour Dominique Amiro.
Bonjour, bonjour à vous tous, merci.
Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Alors justement, avant de parler de cette fameuse loi Egalim, Dominique Amiro, un rappel de ce qu'est la FEP, qui ne regroupe pas que des PME agroalimentaires, je ne me trompe pas.
Alors pas tout. C'est la FEP et donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, ce sont des PME, ça va de la TPE, donc de la très petite entreprise, à la PME qui grandit pour devenir ETI un jour, de taille intermédiaire. La FEP est la seule organisation qui représente exclusivement les fournisseurs PME de la distribution. Ce sont des PME alimentaires et non alimentaires, essentiellement alimentaires, et représentent 98% des fournisseurs de la grande distribution. Ça veut dire que le poids qu'on représente, même si en chiffre d'affaires, bon, les multinationales sont plus importantes que nous, mais en nombre, nous sommes beaucoup plus importants et surtout, nous représentons les territoires. Et dans cette loi qui est très importante, c'est qu'en fait, il y a un déséquilibre dans le rapport de force entre l'amont, qui est très atomisé avec les paysans d'une part et d'autre part les PME, et d'autre part, l'aval, qui est très concentré, soit avec des entreprises, des grosses entreprises mondialisées, multinationales, soit la grande distribution. D'où l'idée d'Egalim, l'objectif, c'était de rééquilibrer ce rapport de force. Et je vais plus loin, si vous voulez. L'idée qui a été avancée par le président de la République, c'est de dire, pour pouvoir rémunérer correctement ceux à qui on demandait de faire des efforts pour avoir une alimentation qui soit bonne pour la santé et qui soit bonne pour l'environnement, il faut que inverser le processus de formation des prix en commençant par l'amont, ce qu'a appelé la FNSEA la marche avant. Hein. On commence par l'amont, c'est-à-dire qu'on facture les coûts de création de valeur, les coûts agricoles, les coûts de création de valeur et de transformation qui créent de la valeur donc sur les produits, la matière première agricole, et on les facture à la distribution. Or, le problème aujourd'hui, c'est que la distribution est toujours en guerre entre enseignes. Et cette guerre des prix, elle reporte le financement sur la partie la plus faible de entre l'amont et l'aval, c'est-à-dire l'amont. Donc on est très inquiet parce qu'on croit que cette loi ne va pas assez loin.
Alors justement, parlons-en de cette loi parce que les consommateurs ont entendu parler d'Egalim. On a tous parlé d'Egalim qui avait pour ambition, je le rappelle, d'accompagner la transition de notre modèle agricole. Mais pour la majorité d'entre eux, ils ne savent pas finalement ce qui se cache derrière ce nom et la portée que peut avoir une telle loi. Alors en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette loi Egalim ?
Alors Egalim, il y a alimentation. L'idée c'est de... Il faut avoir une meilleure alimentation, tant pour la santé que pour l'environnement. La santé, vous le savez, c'est premièrement d'Hippocrate, la première médecine, c'est l'alimentation. Et notre environnement, dans le cadre de la transition écologique dans laquelle nous sommes entrés, il faut effectivement protéger nos territoires. Et comme les PME sont très liées au territoire, on les appelle les PME des territoires, d'ailleurs, il y a une très grande intimité entre les territoires et les PME, puisque les PME produisent des produits de terroir, des produits de région qui sont très imprégnés de ces territoires. Et de la même manière, par leur savoir-faire, les PME, par leur savoir-faire et leurs produits, effectivement, façonnent de la même manière les territoires. Donc, il y a une très grande, un très grand lien. Donc, la première chose, c'était une alimentation, à faire une alimentation qui soit plus saine et plus respectueuse de l'environnement. Donc, or, la loi aujourd'hui dit qu'elle... Nous, on a tout à fait soutenu le fait qu'il fallait, comme on a dit, sanctuariser les prix, les coûts agricoles dans nos tarifs et qu'ils ne soient pas négociables auprès de la distribution. Mais on avait dit aussi, il ne suffit pas de protéger la matière première agricole, il faut aussi protéger les échelons de transformation, de création de valeur d'ailleurs. Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'on prend des haricots secs du sud-ouest que ça suffit. Il faut des il y a toutes sortes d'autres éléments qui permettent de créer de la valeur et il faut qu'on puisse les répercuter auprès de la distribution. Or, la première chose que fait la distribution la plupart du temps, c'est de dire, si vous voulez continuer la négociation, il faut baisser vos prix de 10% pour financer leur guerre des prix entre enseignes.
Alors justement, Dominique Amiro, au-delà de la question du pouvoir d'achat des Français, si les prix montent dans l'Hexagone, est-ce que cela veut dire que les enseignes étrangères qui négocient hors de France avec des produits venus d'ailleurs seront favorisées et donc par ricochet, risque d'avoir des effets à haut risque sur la pérennité de l'activité et des emplois des PME agroalimentaires qui sont ancrées sur notre territoire?
Alors pas du tout, parce qu'on a fait faire une étude d'un cabinet d'études indépendant qui s'appelle Asterès et qui a montré que s'il y avait 10% d'une augmentation des prix de vente alimentaire, qui ne sont pas que de PME, l'impact sur le pouvoir d'achat était de moins 0,07%. Ça veut dire que l'effet de la juste rémunération des acteurs, des parties prenantes des filières agroalimentaires n'a pas d'impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs, des ménages. Mmh. Et ce qui est tout à fait, c'est l'argument qui est utilisé par les distributeurs, c'est de dire, nous on défend le pouvoir d'achat, alors que rien dans notre constitution leur donne le droit de dire qu'ils sont les défenseurs du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est autre chose que leur guerre des prix. Ils veulent absolument légitimer leur guerre de prix entre eux pour se prendre de la part de marché, en la faisant financer par l'amont parce qu'elle est plus faible. Mais c'est pas du tout, il n'y aura pas d'impact sur le pouvoir d'achat. Donc ça a été démontré, ça a été apporté à Bercy, donc ça les a rassurés. Ceci dit, on n'a pas été jusqu'au bout de l'avancée législative qu'on attendait. Risque pour nous, c'est qu'effectivement, on s'engage à répercuter tout ça dans nos tarifs auprès des distributeurs, et que les distributeurs nous disent nous, on n'accepte pas, et qu'on soit pris en étau, en quelque sorte, entre la distribution qui refuse les augmentations qui sont légitimes, et d'autre part, sa volonté de continuer la guerre en disant qu'il est pour la légitimer, de façon éhontée d'ailleurs, dire nous, on défend le pouvoir d'achat des gens, ce qui n'est pas vrai. Alors, en plus, ils ne se privent pas d'acheter aux multinationales et d'acheter à l'étranger, bien entendu.
Alors, avant de poursuivre notre entretien, Dominique Amiro, je vous propose qu'on écoute Alain Bachung, Ma Petite Entreprise. On se retrouve juste après.
Une info, un message, un coup de cœur. Retrouvez Manger Vrai sur Facebook.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle exhibe des trésors satinés. Joyous way. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement on se dévoile et mes doigts de palper. Palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Une partie de la matinée et les vacances, abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, au tir du néant. Qu'importe l'amour importe. Qu'importe l'amour s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye ou la hausse. La secoue à mes oreilles, ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche, débauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper, palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ses lèvres, à l'oreille. Qu'importe l'amour importe, qu'importe l'amour s'exporte, qu'importe. Je perds le nord au Cap Horn quand je vois se poindre les pyramides, mes années, mes lubies. La secoule à mes oreilles, ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie à l'exil des trésors. L'amour importe, qu'importe l'amour s'exporte, qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos. La secoue mes oreilles, ma petite entreprise connaît pas la crise. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. De l'aube à l'aube.
C'était Alain Bachung sur Manger Vrai, première plateforme audio dédiée à 100% à l'alimentation, au métier de bouche, au terroir, mais aussi au mieux manger. Il faut savoir que Ma Petite Entreprise fut une chanson baromètre qui annonçait la fameuse bulle Internet. Le texte explore les bienfaits du monde de l'entreprise et montre ce désir décomplexé de faire de l'argent. Quand il dit « et mes doigts de palper, palper », c'est l'idée de l'argent. La chanson a été utilisée dans le film Ma Petite Entreprise de Pierre Jolivet et dont Bachung a écrit la musique.
Moi, j'ai vraiment envie d'apéro, de barbecue, d'air libre, d'été, quoi. Pas toi ?
Carrément. Il n'y a plus qu'à trouver des idées de recettes, d'accompagnement, de cocktails, et on peut lancer les invites ou faire ça entre nous.
Retrouvez sur le site cidredefrance.fr des conseils de spécialistes, des recettes, des idées pour réussir vos apéros, vos barbecues et vos plans de chat.
Avec le cidre, redécouvrez les instants qui font la saveur des vacances. Boisson unique et 100% made in local, les cidres accompagnent vos tablées estivales.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Manger Vrai, première radio 100% dédiée à l'alimentation.
Notre invité ce matin dans On vous en parle, Dominique Amirault, président de la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. Nous évoquons ensemble ce matin la fameuse loi Egalim 2, une loi qui doit encore passer par le Sénat et à la rentrée parlementaire, sans doute en commission mixte paritaire. Une loi fortement critiquée, notamment par la grande distribution, mais aussi par les différentes associations et fédérations. Pour vous, Dominique Amirault, si ce texte passe dans l'État, les industriels, et vous avez un petit peu répondu avant la pause musicale à la question, les industriels de l'agroalimentaire seraient-ils clairement pris en tenaille entre les agriculteurs et les distributeurs ?
Le président de la République a dit que, compte tenu de la crise sanitaire que nous avons connue, ce qui est important, c'est l'indépendance économique et c'est la souveraineté alimentaire en ce qui nous concerne. Et il faut donc s'organiser pour ça. Si on ne nous permet pas, si on est pris en étau, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire que ça sera aux dépens des ressources que nous devons investir dans l'avenir pour innover, investir en matériel, embaucher, etc. etc. Donc, si on ne peut pas faire respecter nos tarifs, effectivement, nous n'aurons pas la possibilité d'investir dans la souveraineté alimentaire de la France. Et c'est ça l'enjeu, le grand enjeu.
Justement, peut-on affirmer aujourd'hui, en poussant la réflexion un peu plus loin, que cette loi s'apparente finalement à la mise à mort des PME agroalimentaires françaises ?
Oui, elles sont fragilisées de ce fait, puisqu'elles sont prises en étau, comme je disais tout à l'heure, entre les distributeurs qui veulent récupérer de l'argent et qui refusent nos variations de tarifs. Et le fait que nous, on se soit engagés vis-à-vis des agriculteurs de payer le coût de la matière première à son véritable prix, donc s'il augmente, on s'est engagé à le faire, à le mettre dans nos tarifs pour que les distributeurs l'acceptent. Si les distributeurs ne l'acceptent pas, ça va être pris sur nos ressources.
Que demandez-vous au gouvernement pour rectifier cette mort annoncée ?
Ce qu'on leur dit, écoutez, on a un tarif. Le tarif, il est fait de quoi ? Un tarif, c'est nos prix, c'est-à-dire il est fait, c'est l'indice de la création de valeur. Il est fait des coûts agricoles, qui doivent être payés correctement, et puis d'autre part, des coûts de transformation et de création de valeur. Par exemple, à partir de haricots, on les transforme en plats cuisinés pour faire, je ne sais pas, du cassoulet. Donc il y a des coûts de boîtes de conserve, il y a des coûts tout ça. Il faut qu'on puisse répercuter l'ensemble de ces coûts. Ça va être pris sur nos investissements sur l'avenir et sur nos innovations. Donc la seule chose, c'est qu'on demande que notre tarif soit respecté par la distribution. C'est le respect de la rémunération correcte de tous. C'est le respect de toutes les parties prenantes qui contribuent à ces produits alimentaires. Sinon, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre.
Absolument.
Ça devient complètement déraisonnable. Quand on regarde les paysans comme les PME, ce n'est pas des grandes fortunes. C'est donc des acteurs des territoires que tout le monde connaît, parce que la PME est beaucoup appréciée par les consommateurs et les citoyens, parce que elle est incarnée par bien sûr une famille qui dirige, une équipe autour de cette famille qui travaille. On connaît tous des gens qui travaillent dans des PME. Elle a une dimension territoriale extraordinaire, donc les gens ont confiance. Ils ont tellement confiance que nous, on s'est rendu compte que c'était une grande chance, mais qu'en même temps, c'était un risque. Donc, parce que ça peut être déceptif. Donc, on s'est engagé et on a mis en place un label qu'on appelle PME+, qui est fortement inspiré de la norme ISO 26000. Et comme on ne peut pas être jugé parti, nous sommes qu'une fédération, nous avons fait un appel d'offres pour que ce soit un organisme extérieur et Ecocert qui fasse l'audit de toutes. Et ce qui est très important, votre émission, votre plateforme, ça va le manger vrai. Oui. Ce qui est important, c'est que la PME, c'est le vrai, c'est le sincère. On n'est pas comme certains qui font de la publicité en jouant sur l'imaginaire pour faire croire ce qu'ils ne sont pas. Nous, on est sincères. Donc, ce qu'on dit, on le fait. Et c'est ça que vérifie Ecocert dans nos engagements pris dans PME+.
Pour terminer, Dominique Amiraud, vous êtes optimiste pour la suite des futures négociations ?
Je suis optimiste, oui, parce que, d'abord, par nature, je suis optimiste parce que le commerce, c'est le développement et ça, c'est le dialogue avec nos partenaires de la distribution. Et quand on a le dialogue, on a la confiance, et c'est la confiance qui crée la relance. Donc je suis confiant dans le dialogue qu'on peut développer avec la distribution, mais il faut que les règles du jeu qui sont définies au niveau réglementaire soient claires. Or, la PPL telle qu'elle est écrite n'est pas suffisamment claire. Nous souhaitons qu'il y ait des amendements pour préciser ce que je suis en train de vous expliquer, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et puis derrière ça, c'est comme une fois que les règles du jeu sont bien édictées, il faut qu'elles soient respectées. Alors c'est le rôle de l'arbitre, le rôle du gendarme, qui est la Direction Générale des Fraudes, DGCRF. Et donc, on souhaiterait que ces deux aspects soient bien mis en place. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.
Merci beaucoup, Dominique Amiraud, d'avoir pris de votre temps pour répondre à vos questions. Je sais que vous allez prendre un train très rapidement là. Donc, cet entretien est à retrouver sur les plateformes de podcast comme Google Podcast, Spotify, Deezer ou encore Amazon Music. Vous pouvez également télécharger ce podcast sur notre site www.manger-vrai.net. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de On vous en parle. D'ici là, soyez prudents et passez d'excellentes vacances. Merci, Dominique.
Merci beaucoup, Henri, et à très bientôt. On apprécie beaucoup votre plateforme. Continuez, parlez vrai et mangez vrai.
Merci beaucoup.
On est derrière vous.
Une info, un message, un coup de cœur. Retrouvez Mangez Vrai sur Facebook.
Passer au bio, pour un agriculteur, est compliqué. Cela représente une période difficile de transition qui dure 3 ans. 3 années, pendant lesquelles il cultive sa terre en respectant les règles contraignantes du bio, mais ne perçoit pas les bénéfices de son travail. Chez Bio Demain, nous accompagnons les agriculteurs dans leur transition vers une agriculture plus durable. Nous facilitons la vie de nos agriculteurs et les rémunérons justement durant leur passage au bio. Un salaire digne pour un travail de qualité. En choisissant Bio Demain, vous vous engagez aux côtés des agriculteurs qui œuvrent pour un monde meilleur. En plus d'être bon pour vous, acheter ces produits aide les agriculteurs à préserver l'environnement, à se rémunérer équitablement, ainsi qu'à protéger leur santé et celle des habitants en proximité. Ensemble, accompagnons les agriculteurs qui s'engagent pour l'homme et la nature.